franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, la nourriture du futur avec le biophysicien Christophe Lavelle.
Comme on l'a vu, il y a une pression. Tout à l'heure, Gilles a parlé d'associations type L214, où effectivement, on a en fait deux catégories de consommateurs, on va dire aujourd'hui. Ceux qui refusent catégoriquement l'alimentation animale, donc on va classer chez les végétariens et les végétaliens, donc pour des raisons éthiques, et ceux qui ont décidé de diminuer la part d'alimentation animale dans leur consommation, et là c'est beaucoup plus pour des raisons écologiques, bien entendu. Et cette population devient de plus en plus bruyante et importante, et donc évidemment, sous cette pression des consommateurs, un certain nombre d'industriels et d'universitaires et de laboratoires travaillent sur une alimentation qui, justement, permettrait de diminuer la quantité et l'utilisation, de diminuer ou d'éliminer, dans certains cas de figure, l'alimentation animale. Et pour inventer des nouveaux produits, on a effectivement quelques exemples, dont les plus célèbres nous viennent, il faut le reconnaître, de Californie.
Alors, quels sont-ils?
Ben, par exemple, pour le steak végétal. Il faut savoir que pour l'instant, si on veut... Il existe déjà des steaks végétaux. Alors pour ça, on va dans des magasins végétaliens. Et puis on va au rayon steak végétal, ce qu'on appelle les simili carnés. Et on a des espèces de galettes. Espèces de galettes. Alors avec effectivement souvent du soja, du blé. Et puis un certain nombre d'additifs tout à fait infâmes. Donc un procédé qui permet, qui évite de tuer une vache, certes. Mais qui, on est dans la junk food. Mais la junk food végétalienne. Alors à partir de là, on peut évidemment mieux faire. Alors, il y a heureusement une marge de progrès et c'est là-dessus que beaucoup d'entreprises travaillent pour essayer, dans la même logique, de faire un steak, mais un steak qui, pour le coup, ressemble réellement à un steak. Et c'est un certain nombre d'entreprises comme Impossible Food, donc en Californie, qui, depuis 2-3 ans, travaillent sur des technologies qui permettent d'avoir qui ressemble à l'œil, mais aussi en bouche, avec la juteosité, avec le gras grâce à des graisses végétales, avec des colorants issus de la betterave, par exemple, pour avoir cette couleur-là.
Sanguine,
et pour qu'on puisse mettre ça dans un burger, et pour que l'Américain puisse manger son burger sans tuer de vache.
Mardi, la méiose expliquée par Raphaël Mercier.
Alors, on étudie les mécanismes, comment ces chromosomes se distribuent lors de la méiose pour créer le patrimoine génétique des descendants. Alors, reprenons. Qu'est-ce que c'est que cette méiose? Alors, Mathieu Vidard, comme nos éditeurs, vous avez dans vos cellules deux chromosomes 1, deux chromosomes 2, etc., jusqu'à 22 chez l'homme, plus X ou Y. Et vous avez reçu un chromosome 1 de votre père et un chromosome 1 de votre mère. Et si vous faites des enfants, eh ben vous transmettez un chromosome 1, un seul, pas deux, parce que votre partenaire va transmettre l'autre chromosome 1. Donc il faut qu'à un moment, on réduise ce nombre de chromosomes. Ça, c'est le premier rôle de la méiose, transmettre un seul chromosome 1 et un seul chromosome 2, un seul chromosome 3, etc., pour que le nouvel enfant ait le bon nombre de chromosomes. Et puis, vous transmettez pas bêtement un chromosome 1, enfin un des deux chromosomes 1 que vous avez reçu de votre père ou de votre mère, mais vous allez mélanger ces chromosomes pour créer un nouveau chromosome. Qui n'a jamais existé avant, parce que c'est une nouvelle combinaison. C'est ça, la recombinaison méiotique, qui fait partie du titre de notre équipe. Et donc ça, ce mécanisme-là a lieu lors de la méiose. Donc deux choses, les chromosomes se reconnaissent, échangent des petits bouts, puis se distribuent.
Donc ça se divise.
Ça se divise même deux fois de suite, pour réduire le nombre de chromosomes. C'est même l'origine du mot méiose. Méiose, ça veut dire réduction. Donc on réduit le nombre de chromosomes pour garder ce nombre de chromosomes stable, pour contrecarrer en fait l'effet de la fécondation, qui est la fusion de gamètes, qui ont chacun une copie de chromosome. Et donc on crée un nouvel embryon qui a deux copies de chaque chromosome, et le cycle continue de génération en génération.
Alors sauf que là vous nous parlez de l'humain, et moi j'apprends que vous travaillez plutôt dans le domaine végétal,
Raphaël Mercier. J'ai commencé par l'humain pour illustrer, mais clairement, ce mécanisme-là est universel chez tout ce qu'on appelle les eucaryotes, donc les plantes, les champignons, les animaux, tout le monde se reproduit par méiose. Les dinosaures se reproduisaient grâce à la méiose, clairement. Et donc, on peut étudier la méiose, soit en regardant, en utilisant des souris ou des plantes, c'est presque indifférent. On va décortiquer les mécanismes qui sont conservés entre ces différents organismes grâce aux intérêts d'un organisme modèle ou d'un autre.
Mercredi, le stress au travail avec Daniel Linard.
Le management met au défi les salariés, leur demande toujours plus, ne reconnaît pas assez la performance, et il y a une espèce d'amour conditionnel aussi qui est mis en œuvre à travers, moi, ce que j'appelle une surhumanisation du travail. Et je crois que la grande difficulté et la grande vulnérabilité des salariés, c'est qu'ils ne sont plus considérés comme des professionnels. Ils sont considérés comme des êtres humains et toutes les ressources humaines sont là justement pour mettre en scène cette dimension purement humaine des salariés au travail.
C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, il y a une sorte d'effet pervers à vouloir rendre les relations cool, sympathiques, bienveillantes, au travail très aimantes. Finalement, on mélange tout et quand ça se passe mal, c'est tout l'individu qui s'écroule.
Absolument. Et quand ça se passe mal, c'est un peu, si vous voulez, comme dans la famille. C'est-à-dire que ils attendent finalement de leur management d'être reconnus comme relevant les défis, comme faisant preuve de grand courage, d'imagination, d'inventivité, de réactivité. On leur demande pas d'être des professionnels qui maîtrisent les règles du métier. On leur demande de savoir s'adapter, de relever les défis, d'être toujours bon, de pouvoir faire mieux. Et du coup, ils attendent ça. Ouais. Ils attendent d'être récompensés. Et comme on leur demande toujours plus, comme ces parents que vous mettez en cause, eh bien, il y a un moment donné où il y a un effondrement. Le burn-out, c'est pas simplement un épuisement professionnel, c'est aussi un effondrement de soi. C'est-à-dire que tout ce qu'on mettait en jeu de soi-même, de son intimité, et pas simplement de soi comme professionnel, mais de soi comme personne humaine, peut s'effondrer à partir du moment où on leur dit « Oui, tu as fait ça, tu as atteint tes objectifs, mais tu ne les as pas dépassés, tu nous as déçus. »
Jeudi, quand les médecins prennent les malades de Lyme pour des fous, faute de les soigner, avec le professeur Christian Perron.
C'est terrible. Alors, ceux qui s'en sortent un peu, c'est quand leur entourage familial, leur médecin traitant les croit et les soutient, parce que ceux qui sont abandonnés par le médecin, par la famille, c'est terrible. Et malheureusement, j'ai beaucoup de témoignages de suicides et j'ai connu personnellement des gens qui sont suicidés parce qu'ils n'étaient pas reconnus par leur entourage et qui souffraient de façon terrible. Et beaucoup m'ont raconté leur parcours, que j'ai réussi à sortir quand même pas mal de gens de psychiatrie, des adultes, des enfants. Énormément de gens qui ont atteint la maladie Lyme sont enfermés en psychiatrie, ils hurlent de douleur et les psychiatres leur disent que c'est eux qui fantasment et que ces douleurs sont inventées qu'ils s'inventent leurs douleurs pour s'amuser, pour d'autres raisons.
On les traite de malades imaginaires, d'affabulateurs, voire de fous, hein, vous le dites, puisqu'ils terminent en service psychiatrique et on imagine que ça ajoute de la souffrance et du désespoir. Les médecins savent-ils soigner la maladie? Une fois qu'elle est reconnue, identifiée, quand on est sûr qu'on a affaire à la maladie de Lyme, est-ce qu'on a les bons outils thérapeutiques?
Non, parce que les médecins suivent le consensus et les recommandations officielles. Alors, ils donnent l'antibiotique recommandé pendant 3 semaines. Et après, ils disent aux malades, vous êtes guéris, au revoir. Mais malheureusement, beaucoup de malades ne sont pas du tout guéris ou rechutent rapidement. Et quand ils retournent voir leur médecin, on leur dit, ce n'est pas possible. C'est écrit partout que la maladie guérit facilement en 3 semaines. Et si les gens insistent, là, effectivement, on les envoie en psychiatrie, on les rejette. Et moi, j'ai malheureusement... La plupart de mes collègues disent, moi je guéris tous mes malades en 3 semaines de traitement, j'ai aucun souci, c'est une maladie qui se guérit très facilement. Mais c'est pas eux qui revoient les malades, parce qu'ils les revoient une fois, le malade a compris qu'il n'était pas cru, qu'on le prenait pour un fou, et ils ne retournent pas voir ces médecins. Et eux, ils sont convaincus qu'ils ont guéri le malade, mais ils ne l'ont pas guéri du tout.
Ils l'ont juste désespéré, il est allé voir ailleurs. Et on a inventé ce drôle de syndrome pour expliquer que certains, après 3 semaines de traitement, ne sont pas guéris, on parle de syndrome post-Lyme.
Alors ça, c'est une imposture aussi scientifique, c'était inventé par un petit groupe d'experts aux États-Unis il y a 30 ans. Parce qu'il y a des bons médecins américains qui, à l'époque, avaient publié dans des bons journaux médicaux pour dire le Lyme, ça ne guérit pas en 15 jours, 3 semaines. Il y a beaucoup de gens qui restent malades, qui rechutent. Et malgré leur publication, on les a marginalisés en disant qu'ils étaient fous. Et le petit groupe d'experts avait décidé que tout le monde devait guérir en 15 jours, 3 semaines. Et comme beaucoup de gens se plaignaient, ils ne pouvaient pas le nier. Il y avait des milliers de gens déjà aux États-Unis à l'époque qui disaient « mais je ne suis pas guéri ». On leur a dit « non, mais vous n'avez plus la maladie de Lyme, votre bactérie est morte ». Si vous continuez à vous plaindre, ils ont inventé ce syndrome post-Lyme, ça veut dire, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est de la psychosomatique, c'est de l'âge, c'est inflammatoire, et puis allez voir ailleurs.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.